Gaël, qui partage avec nous aujourd'hui son témoignage de vie. Et je laisse Nathalie Aron le présenter.
Bonjour à tous. J'en profite pour, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, que quelquefois il suffit d'une rencontre et de quelques minutes pour que notre vie soit pas comme celle d'avant et que il y a de ces rencontres qui font qu'on sera plus jamais les mêmes. Très récemment, moi j'ai eu la chance de devenir kinésithérapeute à la maison de Boulogne justement. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui m'a accueillie avec beaucoup de bienveillance et je ne suis plus la même depuis que j'ai rencontré des Sophie, des Philippe et des Gérard. Donc voilà, j'en profite pour vous remercier aussi et remercier Véronique Blandin pour son soutien. Il y a des rencontres qui sont quelquefois non pas physiques, mais au travers d'un livre, d'un écrit. Et moi aujourd'hui, si j'ai la fierté de porter une blouse blanche, c'est parce que quand j'étais adolescente, j'ai lu un livre. Alors ce livre-là, il a certainement aussi été votre livre de chevet à un moment de votre vie, si vous êtes comme moi et que vous avez dépassé la cinquantaine. Et voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick il y a quelque temps quand j'étais kiné à Garches. Et quand je lui ai dit que c'était grâce à lui que je portais ma blouse blanche, il m'a dit en riant « Oh, ben, j'ai pas dû raconter trop de conneries dans mon premier livre ». Et voilà, et c'est devenu un ami. Et du coup, je suis très très heureuse d'avoir permis d'en parler et de le présenter à Véronique parce que du coup, il va passer un moment avec vous. Et voilà, c'est un vrai, vrai bonheur d'être ici avec lui et je ne parle pas plus longtemps pour qu'il puisse partager avec vous ce qu'il a envie de vous dire.
Merci. Bonjour à tous. Alors, je suis très honoré d'être parmi vous. Nathalie, Véronique m'avait parlé de l'association Alice, ce que vous faites. J'ai lu les documents, les revues. Je suis très en harmonie avec ce que vous faites parce que mon parcours de vie quelque part tangente beaucoup votre quotidien. Voilà, les choses ont commencé pour moi il n'y a pas tout à fait 45 ans, lorsque le 6 avril 1972, quelqu'un a eu la délicate attention de me mettre un revolver dans le dos et de tirer à bout portant. Donc j'ai basculé dans un autre monde, j'étais étudiant en troisième année de kinésithérapie, j'étais international de karaté. Le sport était une partie de ma motivation d'existence. Et d'un seul coup, j'ai basculé dans un autre monde en déséquilibre sur la vie. Et là, un certain nombre de concepts, des mots sont arrivés, et des mots qui étaient inadaptés à ce qu'était à la fois ma vie, notre vie, celle des résidents des établissements où j'ai séjourné. Alors l'écrivain Albert Camus disait que mal nommer les choses, c'était rajouter du malheur à l'humanité. Alors j'avais évidemment ces notions littéraires dans la tête quand ça m'est arrivé. Et d'un seul coup, dans ce monde fermé de l'hôpital, j'ai appris à faire avec des mots aussi inadaptés que le mot handicap, impossibilité, rejet du plaisir. Rejet d'envisager une vie qui puisse être une vie qui se construit alors qu'elle semblait une vie en déconstruction. Et aujourd'hui, lorsque Véronique m'a demandé s'il y avait un thème qui pouvait être un thème de la journée, elle m'a parlé de la notion du plaisir. Et c'est vrai qu'au premier contact, on se dit qu'au fond, est-ce qu'il n'y a pas une antinomie à parler du plaisir et du handicap ? Alors bien au contraire. Bien au contraire, tout simplement parce que c'est en se trompant sur les mots, c'est en refusant d'apporter du rêve aux personnes qu'en fait on les aliène à une vie qui n'est pas la leur. Et donc j'ai découvert en 1972 que l'homme que j'étais avant, sportif, plutôt bien dans sa peau, enfin, vaguement. Je dis vaguement parce que j'avais pas encore découvert ce qu'était la responsabilité ni l'engagement. J'en avais rêvé. J'avais rêvé toute ma jeunesse de marcher sur les traces et des grands aventuriers et en même temps des hommes et des femmes qui ont dédié leur vie à l'humanité. J'aurais voulu être Schweitzer, j'aurais voulu être Monfred, chez les écrivains Kessel ou Malraux, et j'étais rien de tout ça. Et lorsque l'accident est arrivé, l'accident a rebattu les cartes. L'accident a transformé ma vie et m'a permis de devenir ce que j'aurais toujours voulu être. Mais avant cela, j'ai dû entendre un certain nombre de choses, ce que vraisemblablement certains d'entre vous ont entendu, aussi bien les personnes concernées que les familles, c'était la notion d'incapacité. Je me souviens très bien que quelques jours après mon accident, qui a failli être définitif, et j'ai miraculeusement survécu à cette balle de revolver, le médecin directeur du centre, qui se trouvait à Genève, car l'accident s'est produit non loin, a commencé à me faire la liste des impossibilités, la liste des choses que je ne pourrais plus jamais faire. Et c'était tellement extraordinaire, la liste était tellement longue, que j'ai arrêté tout de suite le discours en disant « Ne me parlez pas de ce que je ne pourrais plus faire, parce que d'abord vous n'en savez rien, vous ne me connaissez pas, moi-même je ne me connais pas, et essayons déjà de se reconstruire lentement, et on en reparlera. » Alors malheureusement on n'en a jamais reparlé, j'aurais aimé pouvoir le revoir quelques années après, pour lui parler de cette vie qui était un peu atypique, et qui m'a permis de me réaliser et de devenir ce que j'avais toujours voulu être. Donc ça a commencé par d'abord l'acceptation de la situation. Et comme je ne voulais pas regarder en arrière, je ne voulais pas regarder ce que j'avais perdu, oublier ce que je n'étais plus, j'ai voulu regarder uniquement devant et regarder cet horizon dans lequel il y avait sûrement des hommes et des femmes qui vivaient la même chose et qui avaient beaucoup de choses à me transmettre. Alors tout doucement, j'ai entrepris de reconstruire physiquement avec ce qui me restait, intellectuellement en imaginant que ayant tout perdu, tout s'ouvrait devant moi et qu'en fait, cet accident, loin d'être une punition, était devenu une chance. La chance de pouvoir marcher dans mes rêves, la chance de pouvoir un jour me construire la vie, m'inventer ce qui était la vie dont j'avais rêvé et qui n'avait jamais pointé son nez alors que j'étais sur mes deux jambes. Et à partir de là, comme Prévert, je me suis dessiné une fenêtre sur le mur de la chambre et je me suis évadé par la fenêtre. J'ai commencé à écrire, bien entendu, c'était une façon de coucher sur le papier à la fois ce qui aurait pu être une forme de mal-être et en même temps une envie folle de vivre à tout prix et à l'intérieur de cette vie, la notion du plaisir. Et lorsque Véronique m'a posé la question, je lui ai dit qu'en fait, il n'y a pas de vie minuscule. Il n'y a pas ni vie minuscule ni vie majuscule. Et que le plaisir, c'est une des composantes de la vie. C'est-à-dire que le plaisir, ça peut être quelque chose de fugace. Mais lorsque le plaisir vient vous toucher, eh bien, on commence à accéder lentement à la notion du bonheur. Et lorsque le médecin, dans les premiers jours, m'avait dit, bon, question peut-être rituelle qui devait faire partie d'une grille de lecture, il m'avait dit, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Question un peu saugrenue quand même. J'étais sur un lit, je ne pouvais plus bouger. Je lui ai dit, écoutez, ce qui me manque le plus, c'est que je n'arrive plus à rire. Alors, c'est quelque chose qui l'a un peu déstabilisé, parce qu'il s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et c'est vrai que comme j'avais des problèmes respiratoires, rire m'était devenu impossible. Et pourtant, j'avais envie de rire, j'avais envie qu'on me raconte des choses drôles, j'avais envie d'envisager la vie différemment, avec des moments, des instants de plaisir fugace, conduisant inexorablement au bonheur. Et donc, lentement, j'ai commencé à construire cette vie. Une vie imaginée, j'ai rêvé ma vie. Et je ne l'ai pas rêvé à l'intérieur des murs, je l'ai rêvé au-delà des murs, sans savoir une seule seconde que ça allait devenir la plus grande aventure de mon existence. Et quelque chose que même dans les livres ou dans les bandes dessinées, personne n'aurait eu la folie d'imaginer qu'un bonhomme en fauteuil roulant allait quelques années plus tard entreprendre de faire un tour du monde, par ses propres moyens, traversant un certain nombre de continents en stop et par tous les moyens existants. Tout simplement parce que je souhaitais aller à la rencontre des autres. Et lorsque je suis sorti de l'hôpital, et après avoir passé mon examen de kinésithérapeute, je me suis trouvé dans la situation de quelqu'un qui veut réintégrer le corps social. Et là, je fais un petit distinguo entre vivre et exister. Vivre a quelque chose de physiologique. Exister est une notion sociale. On existe au regard des autres. On existe avec les autres. Et donc j'avais envie non seulement de vivre, et j'avais survécu, c'est déjà le premier point, je voulais exister. Pour exister, il fallait que je parte à la rencontre des autres. Ceux que je rencontrais en face de moi avaient une vision extrêmement réductrice du handicap. Déjà parce qu'ils étaient restés sur la notion de intrinsèque à ce que veut dire le mot handicap. Hand in cap, la main dans le chapeau. On met la main dans le chapeau, on tire un lot, il se trouve que ce lot n'est pas forcément le lot le plus heureux et le plus sympathique de l'existence. Et bien moi, je découvrais ce monde-là, les mots n'avaient pas de sens, d'un point de vue sémantique, me dire qu'on évaluait mes incapacités me paraissait tout à fait désuet. J'aurais préféré qu'on me dise, et si on essayait et d'évaluer et de pousser les potentialités plutôt que les incapacités. Alors les anglo-saxons sont plus en avance que nous en domaine. On aime pousser la notion de capacité plutôt que de définir l'incapacité. L'incapacité, elle est souvent très relative. Et à partir de là, j'ai voulu tracer mon sillon. J'ai quitté le monde hospitalier en 1972, quelques mois après. J'ai eu la chance de faire une rencontre exceptionnelle de quelqu'un qui ne me connaissait pas, que je ne connaissais pas, et qui m'a simplement dit, écoutez, moi, je travaille en Chine. Les Chinois font une médecine tout à fait particulière, qui a plus de 4000 ans d'existence. Cette médecine pourrait vous profiter. Est-ce que vous voulez me retrouver le 11 avril dans une petite ville du sud de la Chine? Alors il me disait ça comme s'il m'avait dit, bah, écoutez, on est à Boulogne-Billancourt, on se donne rendez-vous quelque part au centre de Paris dans quelques mois. Non, c'était juste à 12 000 km de ma base. C'était une aventure. Et là, tous mes héros de papier, Monfred, Tintin, les bandes dessinées, Malraux, Kessel, venaient simplement d'un seul coup frapper à ma porte en me disant, mais c'est l'occasion rêvée, profite, saute sur cette occasion, vas-y, fonce. Et je suis parti le 6 avril 1973, un an après mon accident, je suis parti pour la Chine. Mais juste avant de partir, j'ai parlé à mes parents pour leur dire que j'allais tenter l'aventure de ma vie, celle qu'allait faire de moi l'homme que j'avais toujours voulu être. Et mon père m'a dit cette chose extraordinaire. Il m'a dit, c'est un peu tôt pour le faire, tu viens à peine de sortir de l'hôpital, tu as été repéré il n'y a pas longtemps, c'est dangereux, les médecins pensent que c'est très imprudent de le faire. Mais il faut que je te dise une chose. Non seulement je ne vais pas t'empêcher de faire ce grand voyage, mais en plus je vais t'aider à le faire. Et là, d'un seul coup, j'ai commencé à mettre un pied sur ce qu'était la responsabilité et l'engagement. Et la confiance que mes parents m'accordaient était pour moi le plus beau de tous les passeports. Et c'est comme ça que le 6 avril 1973, je suis parti pour la Chine du Sud, en passant par Hong Kong, un voyage très long en avion, en train. Et j'ai découvert le monde tout à fait particulier de cette Chine dont Mao Tse-tung disait qu'il fallait compter sur ses propres forces. Alors ces mots-là avaient du sens pour moi, beaucoup plus que le mot d'handicapé, d'incapacité. Compter sur ses propres forces, c'était quelque chose qui me parlait, même si je n'avais pas la moindre idée de ce que pouvaient être ni mes forces ni mes ressources. Alors, j'ai séjourné un petit peu en Chine, je suis rentré sur la France, j'ai cherché du travail avec mon diplôme de kinésithérapeute et je n'en ai pas trouvé. À l'époque, je ne connaissais pas Nathalie, mais Nathalie était bien jeune. Elle n'aurait pas pu me présenter à tous ses confrères. Et je suis parti aux États-Unis pour voir si les Américains, s'il n'y avait pas aux États-Unis, des gens qui me ressemblaient, qui avaient des choses à m'apprendre. Moi, j'avais soif d'apprendre. Je voulais découvrir. Je voulais qu'on me raconte la vie, qu'on me dise ce qu'était la vie, ses plaisirs, ses bonheurs, comment on pouvait, même quand on avait apparemment perdu une partie de son intégrité physique, comment y trouver l'essence même de l'existence et sa finalité. Alors, je suis resté un certain temps aux États-Unis. Je suis allé travailler dans un hôpital de l'armée américaine qui cherchait des bénévoles. Et puis je suis revenu en France, j'ai cherché du travail, j'en ai pas trouvé. Alors la seule chose que je pouvais faire, c'était de repartir vers l'Asie. Et à nouveau, je suis parti retravailler en Chine, où là, je suis resté une année. Alors pendant une année, j'ai essayé, comme j'ai pu, de vivre avec les Chinois. J'ai pas pu apprendre le chinois, parce qu'à l'époque, il fallait avoir un statut. Or là encore, j'étais rien. En France, j'étais handicapé, en Chine, j'étais rien. J'étais ni diplomate, ni étudiant, ni homme d'affaires. Enfin, j'étais une espèce d'électron libre. Non identifié, pour lequel il était impossible d'intégrer une structure sociale ou professionnelle. Donc après cette année en Chine qui était assez passionnante, je suis revenu en France, je n'ai pas trouvé d'emploi, parce qu'un kinésithérapeute en fauteuil roulant, ça paraissait encore à l'époque tout à fait incongru comme proposition. Et là j'ai décidé, après avoir rencontré le ministre de la Santé, introduit par le député-maire de ma ville, où je voulais simplement travailler au ministère comme un petit conseiller de l'ombre qui aurait pu avoir quelques idées sur la façon dont on peut prendre en charge les personnes handicapées. Alors à l'époque, on disait personnes handicapées, le mot ne me plaisait pas du tout. Après, avec l'évolution du temps, les mots ont changé. On a parlé de personnes en situation de handicap, puis des personnes à besoins spécifiques, puis maintenant on parle de personnes à besoins fonctionnels. Et donc la rencontre avec la ministre a été tout à fait catastrophique, parce qu'elle était surprise d'abord que je lui fasse des propositions de venir travailler au ministère. Et sa première réaction a été de me dire « Mais jeune homme, quel âge avez-vous ?» Alors j'avais pas tout à fait 26 ans. Elle m'a dit « Vous êtes bien jeune. » Alors j'ai été surpris sur le coup. Alors il a fallu que j'analyse en sortant de là, en disant « Bien jeune, ça veut dire quoi ? » Ça veut dire inexpérimenté, peut-être utopique ou peut-être un peu stupide. Mais au fond, ce qu'elle me dit là, il y a peut-être quelque chose de... Il y a du fond. Ça veut peut-être dire que j'ai tout à apprendre et tout à découvrir. Et la seule façon de découvrir la vie, c'est d'aller au-devant de la vie, d'aller au-devant des autres. Et je ne savais pas à l'époque qu'aller au-devant des autres était le début de la mission, celle qui, pour laquelle pendant 35 ans de ma vie, j'allais consacrer mon temps, mon énergie à essayer de soigner des gens dans des pays émergents, dans des pays en guerre. Donc en 1974, je suis parti pour un tour du monde. Ce tour du monde a commencé par l'Asie. De Chine, je suis parti au Vietnam, où l'Organisation mondiale de la santé m'a recruté. Là, il n'en avait rien à faire que je sois incapable de monter des escaliers ou incapable de faire telle et telle chose. Il trouvait en moi quelqu'un capable de faire un trait d'union entre des personnes blessées, c'est la guerre du Vietnam, blessées par des tirs d'obus ou par des balles, des enfants qui avaient été brûlés par le napalm. Et il trouvait que ce bonhomme à roulette qui ne demandait rien que de simplement loger et nourrir, ce qui ne leur coûtait pas bien cher parce qu'avec un bol de riz, du poisson séché, ce n'était pas des dépenses exceptionnelles. Et je suis resté un certain nombre de mois au Vietnam jusqu'à ce que la guerre se fasse plus pressante, que le Viet Cong encercle la ville de Saigon. Et là, comme beaucoup, j'ai dû quitter le Vietnam pour partir dans un autre pays du Sud-Est où j'ai recommencé mon activité sur l'Indonésie. Après l'Indonésie, je suis parti en Australie. En Australie, j'ai voulu travailler dans un hôpital, mais la malchance a voulu qu'on me découvre un palu extrêmement sévère. J'avais attrapé la malaria au Vietnam. Et là, j'ai dû reséjourner à l'hôpital en quarantaine, le temps qu'on arrive à éradiquer ce palu dévastateur. Et pour me remettre de ce plus d'un mois passé dans un hôpital, dans une moustiquaire coupée du monde, j'ai décidé de traverser la moitié de l'Australie en stop. Donc je suis parti de la ville de Melbourne pour rejoindre Sydney. Et j'ai fait ça en stop et j'ai fait des rencontres absolument magnifiques. Et j'avais un principe, mon fonctionnement pour faire de l'autostop, c'était de dire, je suis sur le bord d'une route, si possible une route où il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent, ce qui fait que le premier qui passera sera obligé de s'arrêter. Car il me paraissait impossible que lorsqu'on voit un bonhomme au milieu de nulle part dans le désert australien, qu'elle pousse levé avec son sac au pied de son fauteuil, il est impossible de ne pas s'arrêter. Alors c'est un raisonnement très simpliste, hein, je ne vous conseille pas de le faire systématiquement parce que vous seriez peut-être déçus. En tout cas, j'ai traversé la moitié de l'Australie comme ça, j'ai fait des rencontres formidables, et arrivé de l'autre côté, ben, j'ai pu embarquer pour le Pacifique, où là je suis resté plusieurs semaines dans le Pacifique, avant de rejoindre la Californie, où à nouveau je suis allé travailler dans l'hôpital des vétérans de Long Beach, qui est un grand hôpital pour les vétérans de la guerre du Vietnam. J'y ai passé quelques mois pour me refaire une santé physique et financière, et puis j'ai embarqué pour l'Amérique du Sud pour essayer de découvrir ce grand continent dont on m'avait dit qu'il ressemblait à l'Eldorado. Alors en fait, au lieu d'être un Eldorado, ça a été pas un petit enfer, mais ça n'en était pas loin, puisque tout ce que j'ai entrepris, je l'ai raté. Alors j'étais habitué à rater des trucs, hein. J'ai pas toujours eu du succès dans toutes mes entreprises, mais là c'était systématique, c'est-à-dire que dès que j'entreprenais une activité, j'ai monté une association de sport handicapé, elle a foiré. J'ai voulu travailler comme photographe, ça n'a pas marché. Comme kinésithérapeute, ça n'a pas marché. Et pour couronner le tout, quelqu'un a eu la délicate attention de me renverser dans un parking et il m'a écrasé contre un mur. Donc j'ai cru que là, le signe était arrivé. Il ne fallait pas rester dans ce pays, il ne fallait pas rester au Venezuela, il fallait continuer le périple. Alors la seule façon de continuer le périple intelligemment, ben, c'était d'aller sur un petit aéroclub et faire du stop. Et là, j'ai fait du stop et j'ai trouvé un petit avion qui partait vers l'Amazonie pour déposer du courrier. Alors ils m'ont calé sur des sacs de courrier. Alors, je ne les ai pas lus, hein, je peux vous dire, je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais j'imaginais déjà toutes les lettres d'amour que j'avais sous les fesses. Et donc j'ai traversé comme ça, j'ai survolé l'Amazonie jusqu'à Manaus, la grande ville sur le fleuve Amazon. Et après plusieurs jours à Manaus, j'ai cherché des bateaux qui descendaient vers l'Atlantique. Deux bateaux étaient là, prêts à descendre, le Leopoldo et le San Fernando. J'aimais bien le nom de San Fernando. Il y avait un saint là-dedans. Je trouvais ça sympa. Je pensais qu'il me protégerait. J'ai bien fait parce que l'autre, il a coulé. Donc, j'aurais été un peu dans le désarroi, à nager sur l'Amazone, essayer de regagner la rive en ayant perdu le fauteuil roulant, les quelques vêtements et autres. Arrivé de l'autre côté, donc sur l'Atlantique, à nouveau, bus, autostop, machin, vers jusqu'à Brasilia. Une ville inhumaine, une ville dessinée par des gens qui imaginent qu'enfermer des gens dans des tours de béton sur un grand plateau balayé par le vent, c'est peut-être ça l'avenir du monde. Donc j'ai été terrifié par cette ville de Brasilia. J'ai continué ma route vers Rio. J'ai passé quelques temps à Rio de Janeiro. La musique, les gens, sortir la nuit, sans imaginer une seule seconde que c'était extrêmement dangereux. Mais pour moi, je découvrais la vie et surtout, j'étais en train de refaire le chemin inverse de ce que le bon docteur suisse m'avait dit sur mes impossibilités, mes incapacités, que ma vie serait un enfer. Et l'enfer avait un charme fou. Alors, je vais vous passer les détails des rencontres, mais ça a été assez magnifique. Et puis j'ai réussi, en échangeant une belle photographie que j'avais faite au Venezuela, que j'ai vendue au groupe Air France. Enfin, je ne l'ai pas vendue, je l'ai échangée contre un billet d'avion. Et je suis rentré en France. Et là, 2 ans plus tard, je suis arrivé, il faisait froid. Nous étions en 1977, il pleuvait. J'arrivais des tropiques. Et d'un seul coup, tout m'est tombé sur la tête. Impossible de trouver du boulot. Paris sous la pluie. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je continue encore l'aventure. Et la chance encore, parce que j'y crois beaucoup, quand on l'appelle de ses voeux, elle peut arriver parfois, m'a fait rencontrer un homme exceptionnel, le père Michel Jaouen, qui est un jésuite qui a consacré une grande partie de sa vie, 40 ans de sa vie, à embarquer sur ses 2 grands voiliers des hommes et des femmes en perdition qui s'étaient réfugiés dans la drogue. Et le père Jaouen est devenu mon deuxième père et il m'a dit, écoute, si tu veux, un jour, on pourrait naviguer tous les deux. Et pour moi, ça me paraissait quelque chose de fou. Et nous sommes partis pour traverser l'Atlantique. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Arrivé de l'autre côté, à New York, je suis monté sur le Canada. Il y avait des Jeux Olympiques à Montréal. Je suis allé habiter dans un sous-sol d'un bonhomme qui était le cousin d'un type que j'avais rencontré à Hong Kong et qui m'avait dit, si jamais tu vas au Canada, t'hésites pas à appeler. Donc c'est sûr que qu'on passe par relais comme ça interposé. Il était un peu surpris de ma demande. J'ai dit, voilà, j'arrive à Montréal, je connais personne. Est-ce que vous pouvez me loger? Il me dit, je vais vous mettre dans la cave. Alors j'ai passé ma vie dans la cave au milieu des scooters, des neiges, des victuailles, des skis. Et voilà. Et ça a été extraordinaire parce qu'en allant frapper à la porte du comité olympique, j'ai dit, voilà, je voudrais devenir photographe aux Jeux Olympiques. Prétention absolue. J'avais un appareil photo qui, bien entendu, a fait rire tout le monde. Parce que l'appareil photo me permettait à peine de photographier quelqu'un à 5 mètres de moi. Et j'avais la prétention aux Jeux Olympiques d'aller photographier toutes les stars mondiales au milieu du gratin de la photographie. Et puis les organisateurs ont trouvé ma demande et surréaliste, folle et en même temps amusante. Et j'ai obtenu une carte de presse et je suis devenu photographe officiel aux Jeux Olympiques. Ce qui a à la fois beaucoup fait rire les grands de la photographie, Raymond Depardon, Cor Hetmeister, le patron de Sport Illustrated. Les plus grands photographes du monde étaient là, puis moi j'étais avec mon petit appareil photo ridicule. Et ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai vite été repéré par la télévision canadienne qui m'a fait venir sur un plateau de télé. D'abord pour se moquer un peu de moi parce que j'avais une allure un peu hirsue, j'avais une barbe, des cheveux longs, un fauteuil tout rouillé. Et puis, lorsque le monde du Canada, la presse et autres, a su qu'il y avait un fou furieux qui voulait être photographe, enfin, qui prétendait être photographe, un grand fournisseur de matériel photo est venu me voir en disant « Monsieur, on va vous prêter du matériel professionnel ». Alors, j'étais pas habitué parce que d'un seul coup, je me suis retrouvé avec des téléobjectifs d'un mètre de long. Faire des photos avec du matériel comme ça, je ne savais pas faire. Donc, j'ai regardé comment faisait Raymond Depardon. Je me suis collé au meilleur pour voir comment il faisait. Puis j'ai fait quelques photos et l'une d'entre elles est partie sur la France et c'était la photo du sportif français Guy Drut qui venait de gagner la médaille d'or du 110 mètres haies. Et cette photo m'a évidemment été publiée et m'a donné une toute petite légitimité dans ce milieu. J'ai quitté Montréal pour aller à Toronto parce que j'avais entendu parler de jeux pour handicapés, des Jeux Olympiques pour handicapés. On ne les appelait pas paralympiques à l'époque. Et je suis parti à Toronto et là à Toronto j'ai fait une photographie, une seule, qui était la photographie d'un jeune athlète canadien de 18 ans qui n'a qu'une seule jambe, il est coupé au niveau de la hanche, il a eu un accident quand il avait 3 ans, dans une ferme, une machine agricole lui a haché une jambe. Et donc ce garçon a consacré sa jeunesse à s'entraîner, et je fais une photo d'Arnie Bolt sautant 1m86, donc il saute à cloche-pied, 1m86 en hauteur. La photo, il a l'air d'un oiseau. La photo est absolument sublime. La photo partira en France, elle fera le tour du monde. Et très longtemps après, quand je rentrerai en France, je découvrirai dans le bureau du ministre de la Jeunesse et Sport la photo qui est accolée derrière son bureau. Il me dit, voyez, le sport pour handicapés, je connais. Je lui dis, oui, moi aussi, je connais un petit peu. La photo, c'est moi qui l'ai faite. Mais ça n'a pas pour autant, ça ne m'a pas ouvert pour autant les portes, ni l'administration, ni rien. Ça n'a fait que refermer. Après 110 ans, on a rencontré un fou furieux. Il est rentré chez lui, on est bien content. Et puis nous étions à une époque, je me suis trompé tout à l'heure sur la date, c'est 1976, et rentré de toutes mes pérégrinations, quelque part, il y a quelque chose qui colle pas dans ma vie. Je veux voyager, mais je ne sais pas pourquoi je veux faire ces voyages. Je veux rencontrer des gens, je veux apprendre, certes, mais en même temps, il y a la notion de la mission qui me taraude dans la tête. Je pense qu'à un moment donné dans une vie, dédier sa vie pour les autres, c'est peut-être ça le chemin, c'est peut-être ça la finalité de tout ce qu'on est, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voudrait être. Et puis, je frappe à la porte d'une grande organisation humanitaire, Médecins Sans Frontières. Je les appelle, et comme d'habitude, je ne donne que mon nom, je ne parle pas, bien entendu, du fauteuil roulant. Et je suis reçu par un monsieur, un médecin réservé, mais assez sympathique, qui s'appelle Xavier Emmanueli, et qui a été un des quatre fondateurs de Médecins Sans Frontières. Et je lui dis, voilà, je suis kinésithérapeute. Alors évidemment, Nathalie, elle sourit, parce que mes connaissances en kinésithérapie étaient quand même assez frustres. Et je cherche du travail, et est-ce qu'il n'y a pas une mission Médecins Sans Frontières pour moi ? Il me dit, on a bien quelque chose, on cherche un kinésithérapeute, mais personne ne veut y aller parce que c'est trop dangereux. Alors je dis, là, vous commencez à m'intéresser. Il me dit, mais c'est quoi ? Ben voilà, il y a la guerre du Liban, c'est à feu et à sang en ce moment à Beyrouth, on cherche quelqu'un, personne ne veut y aller. Ben je dis, voilà, vous l'avez trouvé. Et une semaine plus tard, j'étais à Beyrouth. Alors je dois confesser qu'avec tout l'amour que j'avais pour mes parents, et tout l'amour qu'ils m'ont bien entendu porté, je ne leur ai pas dit que je partais à Beyrouth. Je leur ai dit que j'étais à Beyrouth une fois sur place. Je ne voulais pas les affoler en écrivant « Ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Et derrière le « tout va bien », il fallait lire en filigrane, en tout petit, en dessous. Il y a des bombes qui tombent tous les jours autour du dispensaire. Il y a des gens, il y a des cadavres dans les rues, on se fait tirer dessus. Mais ça, bien sûr, je ne leur ai pas dit, parce que sinon, j'aurais cassé un peu leur rêve. Et là, j'ai commencé à travailler côté chrétien dans la montagne, avec des bonnes sœurs formidables, avec très peu de moyens, un petit centre de rééducation très pauvre. Puis au bout de quelques temps, évidemment, le démon de l'autre, l'envie de l'autre, l'envie, le goût des autres, a fait, je me suis dit, je ne peux pas continuer à travailler du côté chrétien. Il faudrait peut-être quand même que j'aille voir ce qui se passe du côté musulman, parce que là aussi, il y a des blessés de guerre, là aussi, il y a des gens qui souffrent. Et la mission de Médecins Sans Frontières, d'une grande ONG comme celle-là, ce n'est pas soigner un côté, c'est soigner l'humain dans ce qu'il a de plus déshérité. Alors j'ai trouvé un complice, un chauffeur, avec une grosse voiture américaine, et la nuit, sur le boulevard périphérique, où il y avait des snipers embusqués avec des fusils à lunettes, infrarouges, il me passait de l'autre côté. Alors on traversait le boulevard périphérique à plus de 150 à l'heure, tout feu éteint, il m'amenait côté musulman, il me déposait dans un hôpital côté musulman, puis là je travaillais, je faisais le kiné, je faisais de la rééducation,